la Covidienne. Du lundi au jeudi, 30 minutes d'actu, virale et collégiale.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la Covidienne sur les ondes de Radio Campus Angers. On est nous ensemble pendant une demi-heure pour discuter de l'actualité locale. Et ce soir, on va parler vie nocturne, puisqu'effectivement, il n'y a toujours pas de date de déconfinement pour les clubs culture, ces boîtes et discothèques qui revendiquent leur place de lieu culturel, de création et de diffusion artistique. Leur fédération, pour se faire entendre, était une des préconisations du livre blanc des états généraux du droit à la fête, organisé par le collectif Culture Barbare, une liste de propositions pour une véritable politique publique de la nuit. On en a parlé avec Denis Taledec, directeur général de Culture Barbare. Enfin, avant de se quitter, c'est Léo qui reviendra pour sa chronique internationale et qui nous emmène ce soir du côté du Tchad. Et je vous propose qu'on démarre sans plus tarder. Très bonne émission à toutes et à tous. Si une certaine partie du monde de la culture commence à avoir un calendrier de déconfinement, même si des zones d'ombre demeurent, ce n'est pas le cas des discothèques et boîtes de nuit qui restent laissées sur le côté. Un manque de considération qui fait écho aux déclarations de Roselyne Bachelot en octobre dernier, qui les avait renvoyées vers le ministère de l'Intérieur. Depuis, 37 de ces lieux se sont fédérés autour du statut de club culture, sous l'égide de Culture Barbare, revendiquant leur place de lieu culturel, de création et de diffusion artistique. Cette fédération était une des 170 préconisations que l'on retrouve dans le livre blanc des états généraux du droit à la fête, qui avait été organisé fin novembre dernier, par Culture Barbare, pour une véritable politique publique de la nuit. Ces propositions ont depuis été relayées par le collectif auprès d'élus, à l'échelle locale comme nationale, et pour discuter de tout ça, nous sommes en ligne avec Denis Taledec, directeur général du collectif Culture Barbare. Bonjour.
Bonjour.
Ces états généraux du droit à la fête marquent un temps fort dans la volonté du collectif de dialoguer avec les pouvoirs publics, mais ils s'inscrivent aussi dans des réflexions et des actions que vous menez depuis des années. Il y avait notamment eu les conseils de vie nocturne qui avaient été expérimentés à l'échelle locale dans différentes villes. Est-ce que tu peux revenir dessus ?
Alors, sur les états généraux, le prisme était beaucoup plus large, en fait. En effet, parce que la question qui s'est posée pour Culture Barbare était de savoir, au moment où on devait faire le festival qui a lieu chaque année fin novembre, là, matériellement, on pouvait pas le faire du fait de la crise sanitaire, on s'est posé la question de, mais est-ce qu'on pourrait pas exploiter ce temps, en fait, pour traiter de sujets dont on éminemment importants, mais dont on se disait qu'on n'a jamais le temps de les traiter, en fait, mais avec l'ensemble des parties prenantes et l'ensemble des structures, des acteurs avec lesquels on travaillait. Et donc, c'est les états généraux qu'on réunit quand même plus de 160 000 participants. Ça a été plus d'une trentaine de débats avec 240 contributeurs. On réunit à la fois des universitaires, des villes elles-mêmes qui les ont portées, hein, des municipalités, des citoyens, des acteurs de la nuit, des acteurs culturels. Et on condamnait, comme ça a pu être dit, 170 propositions. Alors, dans l'existant, on avait... En effet, les conseils de la nuit qui ont été installés sur un certain nombre de villes, je citerai quelques-unes, hein, Nantes, Paris, Bordeaux, etc., La Rochelle, etc., etc. Je m'excuse pour celles que j'ai oubliées. Et on voit bien que, en fait, l'un des constats qu'on faisait de manière commune avec l'ensemble des parties prenantes de ces états généraux, c'était de se dire une des premières leçons du premier déconfinement, c'est que l'espace public était devenu l'espace safe, en fait. Au contraire de la crise à temps phare, où l'espace safe, c'était plutôt l'espace privé. Là, l'espace public devenait l'espace sécure, et donc un peu le salon commun, en fait, de tout le monde. Et ça veut dire que cet espace public était destiné à différents usages, que ça soit la question des mobilités, des transports, mais aussi la question de la fête, mais aussi la question de l'espace du riverain, etc., etc. Tout ça devait être partagé. Et l'un des premiers constats, c'est qu'on s'est aperçu, en fait, que là où il y a eu des piétonnisations, des extensions de terrasses, et là où ça s'est le mieux passé, c'est là où on avait déjà une habitude de dialogue entre riverains, entre professionnels et entre puissances publiques. Et ces endroits-là, c'était là où il y avait des conseils de l'ANI, en fait. Et ça, c'est une des premières leçons qu'on peut tirer du premier du premier déconfinement, en fait.
Dans ces différentes villes desquelles vous avez des remontées de terrain, de ces conseils de la vie nocturne, quelles remontées ça vous a permis de tirer un peu au fil du temps? Alors, est-ce qu'il y a, j'imagine, à la fois des différences selon les territoires et aussi des problématiques communes qui se dégagent, peu importe où l'on est?
Oui, en fait, la crise Covid, elle a eu deux effets très concrets. Premier effet, c'est que ça a eu un effet loupe sur des questions de fond qui étaient posées. Je viens de parler de l'espace public. La place de l'arbre en espace public, c'est quelque chose qui est traité depuis un certain nombre d'années sur différentes municipalités, mais aussi la gentrification de nos centres-villes, en fait, ça a mis en exergue, notamment lors du premier déconfinement, encore une fois, où on avait un niveau sonore ambiant qui était, au niveau zéro, mais qui était descendu bien bas. Et en effet, lors du premier déconfinement, où il y avait ce besoin de rencontre, en fait, et que le plus simple et le plus safe du point de vue sanitaire était l'espace public, on est passé d'un niveau zéro à un niveau x4, x5. Et encore une fois, c'est reparti, non pas lors du premier déconfinement par des grands événements nationaux et internationaux, mais c'est reparti en bas de ma rue, dans mon quartier, sur ma place. Et la question qui se posait, c'est comment on arrivait à faire société, tous ensemble, avec ce désir de rencontre, ce désir de fête, mais aussi ce désir de culture, sans notamment créer trop de conflits d'usage derrière ceci. Et on a vu que sur certaines villes, ça s'est tellement bien passé que ça a changé la morphologie même de la ville. C'est-à-dire que des piétonnisations de rue se sont pérennisées parce qu'il y avait une appropriation par tout le monde, c'est-à-dire les acteurs, mais aussi les riverains, et tout ceci avec l'accompagnement de la puissance publique.
Alors, il y a eu cette période de déconfinement, il y a eu après les mois de tolérance estivale, on va dire, où on a pu voir pas mal d'initiatives, on a pu voir des choses se mettre en place, des tentatives de protocoles émerger, et après ça, arrivé au couvre-feu en octobre, et depuis, par contre, tout a été à nouveau verrouillé. Est-ce que, c'était aussi le signe que, les dialogues qui avaient été installés et les possibilités qui ont émergé ont reculé en même temps?
À partir du moment où, en effet, on s'est reconfiné, ça a été un petit peu compliqué, parce que je pense que d'une, la santé mentale de nos contemporains en a pris un petit coup, en fait. Ça, la dimension psychosociale peut-être n'a pas été suffisamment appréhendée dans un premier temps. Ça, c'est la première chose qu'il faut retenir quand même. La deuxième chose, c'est que globalement, on avait un cadre national qui édictait un certain nombre de règles, mais qui laissait la mise en œuvre aux municipalités. Et on a quand même eu un changement doctrinal en la matière, c'est-à-dire que on est passé d'une approche d'un contrôle a priori à un contrôle a posteriori. C'est-à-dire qu'un certain nombre de municipalités ont édicté des interdits et en creux, tout ce qui n'était pas interdit était autorisé. Et on voit encore une fois que là où ça s'est mieux passé, c'est là où il y avait des instances d'évaluation hebdomadaires entre villes et acteurs. Et c'est pour ça notamment qu'on préconise trois choses importantes parmi les 170 propositions, en tout cas sur la méthode. Primo, l'installation d'un conseil national de la vie nocturne, qui est grosso modo un conseil qui devrait être rattaché au Premier ministre et travailler en transversalité face à des injonctions contradictoires entre enjeux culturels, enjeux sanitaires, enjeux économiques, enjeux de tranquillité publique, etc. On voit bien qu'on peut se retrouver face à ces injonctions. On est intimement persuadé qu'on peut les faire converger. Donc ça, c'est la deuxième chose. Mais trouver le décliné réciproque à travers des cellules Covid au niveau des municipalités notamment, c'est-à-dire réunir toutes ces politiques publiques avec les acteurs et les riverains pour pouvoir décliner la reprise dans les semaines qui vont arriver.
Pour revenir sur la première proposition, ce Conseil national de la vie nocturne, dans l'idée, ça serait une évolution de la plateforme de la vie nocturne qui est déjà en place.
Tout à fait, avec peut-être quelque chose de renforcé, c'est-à-dire la présence de l'État. Et notamment, cette plateforme qui réunit d'ores et déjà des fédérations d'élus, des fédérations d'acteurs, des syndicats patronaux, des citoyens, que tout ceci puisse se transformer en conseil national, rattaché au Premier ministre, avec la présence de l'ensemble des ministères, pour avoir une approche à la fois en termes de développement économique, de reprise donc, mais aussi de développement culturel, mais aussi d'enjeux sanitaires, etc., etc. Donc ça, c'est éminemment important pour qu'on puisse avoir une expertise croisée et surtout le rectifier et des échanges de bonnes pratiques entre les différents territoires.
Pour revenir sur ces cellules d'appui Covid qui ont vocation bien à accompagner la reprise des lieux, est-ce qu'il y a eu d'autres villes où cette préconisation a été reprise également ?
Ce livre blanc, on l'a présenté à la fois des fédérations des lieux, le Forum français à la sécurité urbaine, son président notamment, et le bureau de cette fédération des lieux, à la FNCC, la fédération des élus à la culture, à différentes villes, Bordeaux, Nantes, La Rochelle, Nazaire, j'en passe les meilleurs, et notamment l'ensemble des villes auxquelles on a présenté nos préconisations pour installer une cellule Covid, en effet, et où avait déjà un dispositif équivalent qui existait. Et donc, en effet, tout ceci est en train de se déployer sur le territoire national. L'idée étant, encore une fois, de pouvoir accompagner au plus juste, mais surtout d'expertiser et de garder cette souplesse et cette réactivité au niveau des villes pour que ce désir d'altérité puisse se faire au mieux et qu'on puisse recomposer, en fait, une ville et un monde de demain au plus proche de nos territoires, avec peut-être un enjeu à mettre en exergue, c'est qu'il faut faire un pas de côté et ne pas hyper centrer notre regard en matière de fêtes sur les quartiers festifs et ou les rues réunissant un certain nombre d'établissements, mais plus avoir une approche diffuse à l'ensemble de la ville pour notamment pouvoir répondre à l'ambition de ne pas hyper concentrer aussi les publics et puis peut-être revenir à une ville avec des quartiers-villages qui ont une offre diffuse, graduée aussi à l'échelle de la nuit, et c'est-à-dire pouvoir remettre en place une réappropriation de l'espace public, mais avoir peut-être aussi une offre after work dans les parcs et jardins, et puis plus tard, pour un public peut-être plus jeune, plus électro par exemple, mais aussi d'autres propositions, avoir des zones d'urgence temporaire de la fête qui pourraient proposer un parcours plus tardif pour les différents publics.
C'est peut-être quelque chose dont certains auditeurs et auditrices ne se rendent pas forcément compte, c'est que quand on parle de la fête ou du milieu de la fête, il y a effectivement plusieurs grands domaines que ça touche. C'est à la fois des considérations sociales, des considérations économiques et voilà, comme c'était évoqué, aussi des considérations de sécurité et d'urbanisme.
Complètement. La fête, elle existe et on s'est bien aperçu pendant la période de confinement qu'on ne peut pas l'empêcher. La question, c'est très longtemps, par exemple, les années 2000, on a eu des quartiers à destination, c'est-à-dire sur certaines villes, il y avait la rue de la soif, sur d'autres, on avait des quartiers festifs qui étaient sortis à l'image un peu de ces modèles un peu lisboètes qui s'imposaient sur toute l'Europe. Et puis, on est sorti un peu de ça. Certaines villes avaient le quartier des affaires, le quartier où l'on dort, le quartier où on fait la fête, le quartier où on va faire ses courses, etc., etc. Et là, on est plutôt dans une approche plus diffuse, peut-être revenir à l'échelle humaine, sur des sous-quartiers avec des offres plurielles plutôt que destiner des offres à une partie de la ville sur laquelle on voit bien les limites de l'exercice et surtout le besoin d'avoir une nouvelle proximité en fait au sein de ces villes.
Est-ce qu'il y a également d'autres préconisations que tu voudrais mettre en avant qui ne sont pas considérées comme les préconisations un peu primordiales mais qui te paraissent intéressantes à souligner ?
Non, je crois en mettre trop en avant, ça serait en oublier trop aussi. Je pense qu'il faut considérer la vie nocturne comme une nouvelle politique dans une approche temporelle des choses. Alors c'est un peu complexe ce que je dis, mais c'est grosso modo, c'est assez étonnant. Il y a quelques dizaines d'années, il y avait un ministère qui s'appelait le ministère du temps libre, en fait. Eh bien, on aurait peut-être intérêt à avoir une approche aussi temporelle de la vie nocturne, et on voit bien que le confinement a mis en exergue que les liens sociaux, ils ne sont pas que digitalisés, et qu'on a besoin de la rencontre de l'autre sur ce qu'on appelle du présentiel, mais moi, ce que j'appellerais sur de la convivialité, et qu'un écran est beaucoup moins convivial qu'une rencontre de l'autre, en fait. Et on a besoin de ça, donc il nous faut des politiques engagées derrière ça, et on espère pouvoir réinventer un monde enchanté demain.
Pour revenir un petit peu également sur ce qu'il y a eu depuis la sortie du livre blanc, donc il y a eu la constitution des clubs culture que j'ai évoqué en introduction. C'était également une des préconisations. Pour ces lieux-là, c'était et c'est toujours indispensable de faire valoir leurs spécificités et d'arriver à démontrer que ce sont bien des lieux de culture au même titre que des cafés-concerts ou des SMAC.
Bien sûr, on voit bien, et ça va avec avec la difficulté, c'est que quand même, ce qu'il faut retenir, c'est que le premier déconfinement, le deuxième déconfinement et le troisième déconfinement nous amènent à déconfiner en fonction d'une classification, qui est la classification ERP, qui est une classification sécurité incendie. Et donc, on est en train d'avoir une grille de lecture, en fait, qui correspond à de la sécurité incendie, mais pas sur des enjeux sanitaires tels que la crise Covid. Donc ça, c'est la première chose à retenir, que l'évolution culturelle, en fait, et notamment des lieux à travers ce qu'on va appeler les tiers-lieux, mais aussi ce qu'on appelle, nous, des clubs culture, montre que la puissance publique a besoin de mettre les choses dans des cadres, et qu'il est grand temps de revisiter les cadres de la puissance publique, parce que ces lieux, qui sont des lieux hybrides en matière culturelle, il y a du live, il y a du mix, que l'électro est une esthétique à part entière, eh bien, sont absolument pas considérés à ce titre, et c'est les vieilles lignes de fracture culture apollinienne versus culture dionysiaque, qui pose et qui réinterroge le cadre. Alors, ce n'est pas à la vraie vie de s'adapter à la puissance publique, c'est à la puissance publique de s'adapter à la vraie vie. Et donc là, il y a une iniquité de traitement très claire entre des clubs qui peuvent proposer des soirées électro, qu'on pourra retrouver aussi dans des SMAC, hein, par exemple, ou dans d'autres lieux culturels, et c'est parce que ces SMAC et ces lieux culturels sont type L, eux pourraient réouvrir sur une même programmation avec les mêmes artistes, et ces clubs pourraient pas. Moi, je vous pose pas les choses, et c'est important que les types L réouvrent et les SMAC et ces lieux culturels, mais que les clubs soient considérés au même titre comme des lieux de culture à part entière, puisqu'on retrouve les mêmes artistes et le même public.
Il y avait eu par la suite une rencontre des clubs culture avec le ministère de la Culture. Est-ce que la rencontre s'était bien passée? Est-ce que ces arguments-là avaient été entendus à ce moment-là?
Oui, tout à fait. On a rencontré le cabinet de Bachelot qui nous a rappelé que, en effet, ces lieux étaient des lieux de culture et qui étaient des lieux éminemment importants, et notamment en termes d'émergence artistique, puisque moult artistes et DJ de renommée internationale passent dans ces lieux, d'autres artistes émergents passent aussi, et que ce sont véritablement un vivier d'offres artistiques.
Et pour autant, eh bien, voilà, pendant cette annonce de ce troisième déconfinement, il n'y a pas encore de consignes pour ces lieux-là. Est-ce que tu penses que la situation va être amenée à se débloquer quand même, ou est-ce qu'ils vont rester un peu dans cet entre-deux, ces clubs culture, pendant encore un moment?
Je pense que le Conseil national de la vie nocturne doit être installé rapidement pour qu'il y ait un dialogue plus fort entre les différents ministères en la matière. Et on voit bien que il y a là une déconsidération de ces lieux, et ça nous semble important que, encore une fois, ils puissent avoir une approche plurielle en matière de politique publique autour de ces questions-là. Donc on va réinterpeller, on l'a déjà fait, on a sorti un communiqué de presse là, et on réinterpelle l'ensemble, la présidence de la République et l'ensemble des ministres concernés.
Pour la suite, pour toi, pour le collectif, est-ce que tu sais un peu ce qui va se passer? Est-ce que vous allez continuer à présenter ce livre blanc à d'autres élus? Est-ce que tu espères effectivement une constitution du Conseil national à la vie nocturne pour faire avancer les choses? Comment est-ce que tu vois ton agenda des mois à venir?
Eh bien, très concrètement, on continue à faire le tour de France des villes. Encore 3-4 présentations à des villes à l'agenda. On voit bien aussi un véritable besoin des territoires, puisqu'on est très sollicité par les collectivités pour les accompagner sur ces questions-là. Et en effet, j'espère vraiment, et bien urgence, que ce Conseil national s'installe dans les mois à venir. Le plus tôt sera mieux pour accompagner le déconfinement et une reprise et une co-expertise. Encore une fois, mais je ne remets pas du tout en question, ça serait pédant de ma part d'ailleurs, et un peu décalé la capacité du Conseil scientifique, et je pense que voilà, la situation est suffisamment complexe et difficile pour porter aucune critique en la matière. Je n'en ai pas les compétences. Pour autant, je pense que dans les déclinés dans la vraie vie, il y a besoin d'avoir les professionnels de la vie nocturne, notamment de la culture, qui sont en capacité de dire ce qui est faisable ou pas faisable, réalisable ou pas vis-à-vis des publics. C'est eux qui les connaissent les mieux, je pense, et donc on a besoin d'avoir des espaces où on décline de manière opératoire les enjeux sanitaires.
Bon, ben, j'espère que ce message sera entendu. Vous pouvez retrouver le livre blanc des états généraux du droit à la fête en ligne. C'est vraiment un gros travail de synthèse qui a été abattu. C'est assez intéressant. Merci beaucoup, Denis, d'avoir pris le temps de répondre à nos questions.
Merci à Radio Campus de m'avoir écouté. Et bon courage à vous.
Voilà, et nous on retrouve Léo dans quelques instants. Ça sera juste après Feel Away, un morceau de Slow Tie en compagnie de James Blake et Mahon Kimby. We don't go on dates, we went our separate ways, and we don't conversate. She said I'm playing games, she said she feels trapped, stuck up in this fucking maze. How you been? I've been better than yesterday, and it was just a day. You know I don't complain, standing in the rain, soaking wet, trying to demonstrate that I don't feel away, I never hesitate. What's on your mind? Can you say what you thinking, babe? I'm too sure for my pockets, no that's bollocks. Walking through my mind, it's a forest, don't get lost again. Said you want a cottage with a fireplace, sitting by the fire with marshmallows in a chocolate fake. You felt low, I took you higher than a note from Mariah. And still you got the cheek to even try and call me liar. One up in the oven, trying to trap me in barbed wire. Put a baby in your stomach if that's what you desire. Suddenly not half a man I used to be, but truthfully ain't half a bitch you couldn't be. It's not you, so I guess it's me. It's not you, so I guess it's me. Suddenly not half a man I used to be, but truthfully ain't half a bitch you couldn't be. It's not you, so I guess it's me. This time out, 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 have one hand free. This has nothing to do with me. Nothing, nothing. I leave the dent in my car to remind. De retour sur les ondes de Radio Campus Angers, toujours dans la Covidienne, et on accueille Léo en studio pour sa chronique géopolitique du mardi. Et ce soir, Léo, il me semble que tu nous emmènes du côté du Tchad.
Oui Thibaut, ce soir je sors de l'Europe, ma zone de prédilection pour le Tchad. À la mi-avril, le dirigeant Idriss Déby est mort au combat face à des rebelles qui voulaient le renverser. Sa mort laisse de grandes inquiétudes, à la fois pour la population tchadienne et pour les autorités françaises qui avaient trouvé en lui un rempart contre le terrorisme au Sahel, en dépit de sa politique intérieure plus que douteuse. Idriss Déby, c'est 31 ans à la tête du Tchad. Il avait pris le pouvoir en 90 par un coup d'état, déjà appuyé par la France. Comme tout bon militaire qui vient de prendre le pouvoir, il promet la paix, l'unité, la liberté et la prospérité. Mais rien de tout cela ne s'est produit, dans un pays qui figure toujours aujourd'hui parmi les plus pauvres du monde. Les postes clés dans les domaines politiques et économiques sont confiés aux amis, la famille et quelques hommes de confiance. Le Tchad de Déby, c'est aussi naviguer au milieu ou avec des États voisins à travers des relations plus que délicates. Il avait fait ami-ami avec Muammar Kadhafi qui tenait d'une main de fer la Libye après l'avoir combattu. Il armait aussi des rebelles soudanais qui se soulevaient contre le pouvoir d'Omar el-Béchir au Soudan, tandis que celui-ci armait des rebelles tchadiens qui voulaient prendre le pouvoir de Déby. La politique régionale du Tchad a même frôlé la schizophrénie par moments. En 2013, alors que la République centrafricaine est en proie à une guerre civile, les autorités tchadiennes se positionnent en médiateur entre rebelles et gouvernement, tout en épaulant les rebelles. C'est d'ailleurs en combattant une nouvelle fois des rebelles tchadiens au nord du pays que Déby est mort à la mi-avril 2021. Il venait d'ailleurs d'être réélu pour un sixième mandat consécutif, avec un score cliché de 80% des suffrages favorables à un nouveau mandat. Le président Macron s'est bien sûr rendu à ses obsèques, saluant un ami, car en effet le Tchad, c'était un partenaire fondamental pour Paris en Afrique. Petit retour en arrière, le Tchad, c'était une colonie française jusqu'à son indépendance en 1960. Mais dans la tradition france-africaine, pas question de lâcher le pays. Les armées françaises y sont intervenues 7 fois depuis 1960 et ont plusieurs fois sauvé la peau de Déby. Le pays était d'ailleurs devenu un état on ne peut plus important depuis 2013 et le début de l'intervention française au Mali pour combattre les djihadistes du Sahel. Là où l'Europe galérait à fournir un contingent de quelques centaines d'hommes, le Tchad mettait à disposition des hommes à tour de bras. Le Monde parlait ainsi d'un deal sécuritaire qui unissait les autorités françaises et tchadiennes. D'un côté, on dit merci à Idriss Déby d'épauler les forces françaises et maliennes, et de l'autre, on n'est pas trop regardant sur nos fameux principes de respect des droits de l'homme et des volontés d'émancipation de la population tchadienne. Le pays héritait ainsi d'un rôle de stabilisateur d'une région instable, mais qu'il déstabilisait volontiers, c'était le cas avec le Soudan, comme je vous l'ai dit il y a un instant. La succession d'Idriss Déby est aujourd'hui assurée par l'un de ses fils, un général à la tête d'un conseil national de transition comprenant 14 généraux à ses côtés. Ce changement a été directement validé par les autorités françaises, qui doivent se réjouir de traiter avec le gamin, plutôt qu'avec des rebelles et une population jeune, qui rejettent ces nouveaux pouvoirs tout autant que le soutien français. Les manifestations contre le nouveau pouvoir en place ont déjà fait plusieurs morts. Pour le moment, le Conseil de transition a dissous le gouvernement et l'Assemblée en promettant la sortie de terre d'institutions libres et démocratiques dans un an et demi. Mais les tensions d'aujourd'hui annoncent la couleur. La question que je me pose aujourd'hui, c'est comment Paris va-t-elle se positionner? Va-t-elle soutenir le pouvoir du fils Déby? Ou alors se ranger du côté des rebelles est une partie de la population? Cette population qui demande que la France considère le Tchad comme autre chose qu'un partenaire militaire, mais qu'elle soutienne un processus démocratique. On en reparle dans les années à venir. Merci de m'avoir écouté.
Et merci à toi Léo, tu conclus donc cette émission. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Ce soir, c'est mardi soir, vous retrouvez Electric Troubles ainsi qu'avant cela le 3615 Chill Out. On se retrouve quant à nous dès demain. Très belle soirée sur les ondes de Radio Campus.